Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, buenas tardes. Une émotion toujours intense, 24 heures après l'annonce du décès de Diego Maradona. Autour de son cercueil où se recueillent les Argentins, actuellement à Buenos Aires, mais aussi dans le monde entier, à en croire la une des journaux et de tous les continents. Gracias Diego, criaient les Argentins cette nuit au passage de son cercueil vers la Casa Rosada où est veillé El Pibe de Oro. Et nous aussi, nous lui disons gracias, muchas gracias. Lors des débuts de Radio Foot il y a 10 ans, certains s'en souviennent, notre première émission était exclusivement consacrée à Diego Maradona qui venait de souffler ses 50 bougies et récemment nous lui avions souhaité ses 60 ans. Aujourd'hui, nous allons donc lui rendre hommage à ce petit Argentin devenu balle au pied, la plus grande légende vivante de ce sport, l'idole des plus humbles, devenue un dieu en Argentine. Avec nous aujourd'hui pour évoquer Diego Maradona, Alejandro Valente, bien sûr, le chef du service des sports. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Gilles Verdez est à vos côtés. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Dominique Sévrac, notre ami du Parisien.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Dominique. Et puis Bruno Constant, l'anglais qui a mis son maillot de l'Argentine. C'est pas innocent j'imagine. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Non, c'est pas innocent.
Hello, buenas tardes.
L'Argentine avant l'Angleterre, forcément.
Radio Foot a été préparé avec Pierre Guérin et David Finzel. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Ans, Diego porte déjà un maillot au numéro prédestiné et jongle à la perfection.
Les aficionados argentins n'ont de regard que pour un petit bonhomme de 1m65, Diego Maradona.
Diego Maradona.
Vous ne connaissez pas encore son nom.
La naissance d'un enfant roi capable un jour de régner sur la planète football.
Dieu est mort, dit-on depuis hier, mais Dieu est immortel, n'est-ce pas? Alors si vous êtes d'accord tous, eh bien on va croire que le Pibe de Oro n'est pas mort, qu'il est et restera éternel. Diego Maradona est né il y a 60 ans dans une banlieue pauvre de Buenos Aires et très tôt il a donc eu conscience de son talent que Dieu lui avait accordé, assurait-il. C'est lui qui avait d'ailleurs parlé de la fameuse Mano de Dios, on va y revenir. Très jeune, il suscitait l'admiration autour de lui. Écoutez ce passionné de football, l'Argentin Jorge Obermeister.
Moi j'habitais dans un quartier à Buenos Aires, très très proche de où Diego Maradona jouait. Et quand j'avais 11 ans, Diego avait 13 ans, on nous avait appelé les amis du quartier pour aller regarder jouer un génie de 13 ans qui jouait Argentinos Juniors, l'équipe qui était surnommée Los Cebollitas, les petits oignons. Et Diego était un génie, vraiment un génie. Et j'ai suivi un peu toute sa carrière. Moi-même, je me souviendrai toute ma vie que j'avais séché les cours du lycée les jours de... Le 20 octobre 76, en pleine dictature militaire en Argentine, où il a débuté face à Talleres de Córdoba, dans le stade d'Argentinos Juniors. Et quand il est rentré, la première chose qu'il a fait, c'est un petit pont à un joueur qui était un très très bon joueur, Juan Domingo Patricio Cabrera. Il faisait des choses incroyables. Pour nous, ce qu'il représente Diego, c'était un génie du foot, celui qui a le mieux représenté l'Argentine.
Alejandro, l'Argentin, dans cette assistance du jour, portait haut les couleurs de l'Argentine avec génie. Est-ce que c'est un bon résumé de ce que représentait Maradona pour ces milliers de gens? On les voit sur les télévisions qui font plus de 10 cuadras, comme on dit à Buenos Aires, plus d'un kilomètre de file d'attente pour lui rendre hommage au cœur de Buenos Aires aujourd'hui.
Oui, parce que je pense qu'effectivement, en tout cas pour les Argentins, Maradona... Et surtout celui qui a porté très haut les couleurs de l'équipe nationale. Donc évidemment c'est ça qui reste. Je pense qu'il y a surtout cette Coupe du Monde en 1986 avec tous ces matchs exceptionnel, c'est ça qui marque le plus les gens en Argentine, même s'il y a eu tout ce qu'il a fait à Naples et même son passage à Boca Juniors et tout ça, mais ce qui reste par-dessus tout, c'est cette Coupe du Monde de 1986.
C'est ce qui explique avant tout cette passion argentine, cette ferveur.
Après, non, je pense qu'au-delà du footballeur, il y a le personnage qui a su, à mon avis, incarner parfaitement cette époque et comme tous les grands génies de l'histoire. Bon, ça peut paraître un peu excessif de parler comme ça d'un footballeur, mais dans le cas de Maradona, ça me paraît pas totalement excessif. On retient surtout ce qui a rendu le monde meilleur. Et qu'on parle des John Lennon, de Picasso, de n'importe qui, les gens ne vont pas retenir les petites misères de leur vie quotidienne, mais surtout ce qu'ils ont fait pour transformer le monde. Et je pense que Maradona, à son niveau, a rendu beaucoup des gens heureux, a apporté beaucoup de bonheur et a illuminé la vie de plein de gens. Donc c'est surtout ça qui reste.
Gilles Verdez, on est tous ici pratiquement d'une génération où on l'a vu nous jouer Diego Maradona, on a vu grandir ce personnage sur les terrains du monde entier. Vous comprenez cette ferveur, vous la partagez ?
Bien sûr, parce que c'était le plus grand artiste, je ne sais pas si c'est le plus grand joueur, mais c'est le plus grand artiste du football qui ait jamais existé. C'était un personnage incroyable, et puis il a incarné une époque, et l'épreuve la plus mythique, effectivement, comme disait El Refé, c'est la Coupe du Monde, et il a transcendé la Coupe du Monde. Et moi, l'image, une des images de foot qui m'a le plus marqué, elle est dévastatrice, mais c'est lui, marquant en 94, donc c'est la fin, contre la Grèce, ce but en lucarne. Et puis on était en tribune de presse, le chef y était aussi, et il se trouve qu'on était situé à un endroit où il arrive vers nous avec ce visage devant la caméra, extatique, à la fois avec le côté vengeur, rédempteur, c'est moi, c'est Maradona, je suis le meilleur, et en même temps, il portait sur son visage les stigmates de la déchéance. Un visage christique, presque, comme s'il était à la fois tellement vivant et presque mort footballistiquement. Ce visage, je l'oublierai jamais.
Dominique Sévrac, votre Pibe de Oro, parce que je me souviens qu'il y a un peu plus d'un an, dans ce studio, on avait fait une émission lorsqu'était sorti ce film qui racontait ses années napolitaines.
Deux heures de...
D'extase.
Ouais, deux heures de film avec des archives que, bon, Aaron Roy est peut-être vu pour la plupart, mais nous, les Européens, on avait échappé. Bon, ça commence notamment par une conférence de presse à Naples quand il arrive, qui est exceptionnelle. Ça commence aussi par 10 minutes à travers la ville. C'est un film complètement génial. Si vous l'avez jamais vu, il faut absolument le voir. Je crois qu'il passe en ce moment sur les télés françaises, donc ouais. Il faut en profiter.
Diego, hein, je crois que ça s'appelle tout simplement. Hein.
Ouais. Pour moi, on n'a pas perdu le plus grand joueur de tous les temps. On a perdu le plus grand sportif de tous les temps. Pour moi, c'est l'incarnation du. C'est. Je vois pas plus grand. Pour moi, le foot, c'est simple. Le foot, c'est.
Mohamed Ali, Dominique, peut-être.
Pour moi, le sport, c'est le foot, c'est un sport universel. C'est le plus grand sport. Et Maradona était la plus grande star du foot. Pour moi, l'équation est assez simple. On a perdu le plus grand sportif de tous les temps.
Oui, il était au-delà du foot.
Et pour moi, ça dépasse largement le foot. Et comme l'a dit Alejandro, si Elvis Presley avait fait du foot, ce serait Maradona. Donc il est au-dessus de l'Argentine, il est au-dessus du football, il est au-dessus de tous nos codes.
Il est au-dessus de nous maintenant.
Il est au-dessus de nous. J'espère qu'il est bien là-haut. Et on a perdu Diego, mais Maradona est éternel. Donc on a perdu. Donc Maradona, il va rester. Alors moi, j'ai d'habitude, je grogne contre les gens de 30 ans ou 25 ans parce que j'aimerais avoir leur âge. Je me dis, mais moi, ma jeunesse est partie. Et pour une fois, je ne les envie pas parce qu'ils ne m'ont jamais vu jouer Maradona. Et moi, j'ai eu la chance de grandir parce que le foot, c'est aussi un sentiment lié à l'enfance. Et moi, j'ai grandi avec Maradona. Il n'y a pas plus beau que de grandir avec des coupes du monde. C'est ça nos souvenirs. Parce que bon, on regardait pas forcément la Première Ligue ou la Ligue 1 ou le championnat
surtout
allemand.
Surtout à l'époque,
on regardait les coupes du monde. C'était le moment familial.
Et on découvrait des joueurs.
On découvrait Boniek, le Polonais. Voilà. Et Maradona, c'est une émotion liée à l'enfance qui est ultime et qui nous restera à vie pour nous les passionnés de foot. Quoi. Ça reste que du foot, comme l'a dit Alejandro, mais c'est le plus grand génie. Ouais, c'est le plus grand sportif de tous les temps.
On imagine. Donc, si nous, ça nous a autant marqué, comme ça a pu marquer les Argentins. Ouais. Bruno Constant, vous êtes un peu plus jeune que nous, mais Bruno...
Je suis plus jeune, mais moi j'étais dans les âges, j'avais 8 ans quand il a soulevé la Coupe du Monde en 86, pas encore 8 ans, donc pour moi c'était mon idole, clairement c'était l'idole, j'avais entendu parler de Pelé, Et pour moi, Maradona, il était le trait d'union entre ce que pouvait représenter Pelé, le meilleur joueur de tous les temps, dont on parlait à l'époque, et les nouvelles générations qui arrivaient, qu'on pouvait voir à la télévision, les matchs, etc. Et pour moi, au-delà de la star, c'était pour moi le gamin du peuple, en fait. Le gamin qui était à l'image du peuple, avec ses qualités et ses défauts. Et d'ailleurs, quand il le dit dans son jubilé à la Boca, à la Bombonera, le stade de la Boca, où il exprime toute la passion qu'il a pour le football, tout ce qu'il a dit de fait de il faut pas salir ce sport, parce que c'est un sport merveilleux, le football est un sport simple et merveilleux. Et pour moi, c'est ça, c'est l'expression d'un gamin qui aimait, qui était passionné avant tout par le foot, par le jeu. Et il a été exceptionnel. Et c'était un génie, comme le disait le RFA. Et avec les génies, il y a forcément un excès. Il y a des excès et il faut les accepter. Et peut-être qu'avec Maradona, on les accepte parce que il était un génie sur le terrain. Mais quand on parlait de, effectivement, il est devenu ou il était consacré à la Coupe du Monde 86. Mais je trouve que, donc sous le maillot de l'Argentine, mais je trouve que toutes les Coupes du Monde auxquelles il a participé ou il aurait pu participer, quelque part, c'est un peu le reflet de toute sa trajectoire. 78, il y a un peu d'injustice. Il fait ses débuts. Il n'est pas sélectionné. L'Argentine gagne et il avait un talent insolent. En 82, c'est les chocs, c'est les blessures contre l'Italie.
Les
tacles et l'expulsion contre le Brésil, contre ce geste épouvantable contre Batista. Évidemment, le sacre de 86 parce qu'il était au sommet de son art. Et puis 90, l'injustice à nouveau, les débuts des problèmes avec le Napoli. Et puis évidemment 94, c'est le début de voilà les ennuis, la drogue, etc. Et il a explosé un peu en vol, mais il a tellement offert, c'est juste exceptionnel.
Il y a aussi un truc à Nice, c'est que c'est l'ascenseur social, c'est l'endroit où il marche le mieux, c'est le foot. Et s'il y a plus de pauvres que de riches, que de gens riches sur Terre, et donc on peut s'identifier à Maradona parce que c'est peut-être la plus grande réussite. Il est parti des bas-fonds, on va dire, en schématisant, et il est devenu milliardaire. À ce que c'était milliardaire à l'époque, parce qu'il n'a pas connu non plus le foot qui rend milliardaire comme aujourd'hui, comme Neymar, comme Messi, comme Kylian Mbappé. Il a connu un foot certes où on gagnait bien sa vie, mais pas non plus
autant qu'aujourd'hui.
Oui, voilà.
Alejandro, en plus justement dans cette lutte toujours un peu contre le pot de terre et le pot de fer, il avait eu ce combat, on va dire, épique contre Juan Avlanche, qu'il a malheureusement puni, alors sans doute en 90, mais c'est sûr en 94.
Oui, déjà en 86, alors qu'il avait d'autres soucis, parce qu'il avait déjà les soucis de porter l'Argentine à une victoire que tout le monde jugeait improbable, parce que cette équipe avait connu beaucoup de difficultés pour se qualifier, elle n'avait pas la confiance des gens. Il avait ces problèmes-là, il avait les problèmes suscités par sa paternité ou pas en Italie.
Avec une
napolitaine, etc. Il avait beaucoup de problèmes, mais lui, il avait trouvé le moyen d'engager une bataille contre la FIFA pour dénoncer les horaires de match, les cadences auxquelles les joueurs étaient soumis. Et je pense que il avait trouvé là une sorte de voie qu'il n'avait pas forcément préméditée, mais qui allait l'accompagner tout au long de sa carrière, c'est-à-dire se battre contre les pouvoirs établis, qu'ils soient dans le football, qu'il soit dans le pouvoir politique, dans le pouvoir économique. On peut penser ce qu'on veut de ses idées, les trouver parfois naïves ou déplacées, ou être d'accord ou pas. Mais en tout cas, il a eu ce courage, il a payé pour ses idées et il a toujours eu les sentiments, en tout cas, de se battre pour la bonne cause.
Il s'est toujours battu pour ses coéquipiers, pour les joueurs, que ce soit à Naples quand il demandait au président que tout le monde ait la même prime de match, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ou le syndicat des joueurs qu'ils ont créé ensemble en 2005, quelque chose comme ça.
C'était en
95. Il s'est toujours battu pour les autres. Et c'est quand il ressemble un peu au peuple, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient du peuple, qui se battait pour les autres.
Alors évidemment, un geste qui a rendu Maradona si connu et si célèbre, c'était cette fameuse main de Dieu. Un quotidien anglais aujourd'hui, parmi toutes les unes internationales tristes et émouvantes publiées dans le monde, eh bien il y a à Londres une du Daily Star, n'est-ce pas, Bruno Constant, qui se demande en une, mais que faisait la VAR quand on en a eu vraiment besoin? C'est de l'humour anglais? Ou c'est du mauvais goût?
Pour moi, c'est plus du mauvais goût, parce que ça n'a rien à faire là. Mélanger le VAR et Maradona, on sait que c'est une injustice. Quelque part, si, c'est bien parce que ça resitue un peu dans le contexte ce qu'a apporté la VAR. Elle est en train d'effacer les émotions.
Ah, mais alors 1966, les Anglais.
Et elle tente d'effacer les injustices. Mais en effaçant les injustices, on efface aussi toutes les émotions. Donc c'est peut-être bien de le rappeler. Mais il faut rappeler que c'est un tabloïd, comme le Sun, comme le Mirror,
exactement,
qui ont tous titré sur la main de
un
Dieu.
Un journal populaire.
Alors que les autres quotidiens ont parlé du génie de Maradona.
Alors il y a justement ce fameux match, les joueurs argentins contre les joueurs anglais, quart de finale de 1986. Deux buts de Maradona, cette main et puis ce but du siècle. L'attaquant adverse d'alors, c'était Gary Lineker. Il avait même interrogé Diego Maradona en 2006 pour la BBC.
Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee.
De la main, ce but.
Ah, là, là, il a mis de la main. Il l'a mis de la main.
Oh, ah, il a pas vu. It was your hand. Or the hand of God.
C'était ta main ou la main de Dieu?
Oui, c'était ma main. Je ne veux en aucune manière manquer de respect envers les supporters anglais, mais voilà, c'est arrivé. Par le passé, j'avais déjà marqué des buts avec ma main en Argentine. En fait, sur cette action, je ne pouvais pas atteindre le ballon et Shilton voulait s'en emparer. Je ne pouvais pas le détourner avec la tête. Alors, j'ai fait ce geste.
Bruno Constant, finalement, entre grands joueurs, on finit par se comprendre.
Je suis pas sûr, non, mais il dit que c'était, qu'il a pas triché, mais que c'était une manière de ruser, voilà, une ruse. Mais voilà, cette scène, elle était décortiquée, son attitude à lui, sa célébration, le fait qu'il regarde l'arbitre, l'arbitre assistant, les coéquipiers qui demandent aux coéquipiers de venir le voir. Enfin, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est qu'une phase de Maradona, parce qu'il y a l'autre phase qui est exceptionnelle, avec ce but aussi qui a été décortiqué.
Quelques secondes après.
Avec ses 6 adversaires qu'il élimine, ses 11 touches de balle, ses 36 enjambées, tout ça a été décortiqué. Et ce qui est marrant, c'est que 5 ans plus tôt, donc à Wembley, il affronte l'Angleterre. Il fait quasiment exactement l'action copie conforme de ce but, où il dribble comme ça 4 défenseurs et il met un extérieur du pied gauche qui passe à ras du poteau. Et voilà, il avait raconté après que son frère l'avait eu au téléphone le soir du match. Il lui dit, mais la prochaine fois, dribble le gardien. Et c'est ce qu'il a fait en 86.
Gilles, est-ce que ceux qui retiennent que ça, le côté tricheur, ça peut vous irriter?
C'est Maradona, ce côté rebelle. Alors, c'est un rebelle des lois du jeu. C'est un rebelle contre l'autorité de Avalanche, de Blatter, de la FIFA. Il a quand même traité Blatter de dictateur. C'est un rebelle contre les États-Unis. C'est un rebelle politique. Hein.
C'est faux, Gilles.
Pardon?
C'est faux.
J'ai pas dit ça. C'est un rebelle politique. Quand il est au sommet des peuples en 85 à Mar del Plata, il dénonce les États-Unis, l'impérialisme américain. C'est un rebelle contre toutes les formes d'autorité. Et c'est ce côté, le peuple contre les élites, qui fait que Maradona ayant choisi le peuple, il est si populaire auprès de tout le monde, parce qu'on peut s'identifier à quelqu'un qui incarne le peuple à ce point.
Vous savez ce qu'il disait sur la main de Dieu, encore récemment, quand on lui disait qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos 60 ans, il disait je rêve de marquer un autre but aux Anglais, mais de la main droite cette fois.
Voilà, c'est à la une du numéro de France Football qui était consacré à ses 60 ans. Allez, rendre un petit mot.
Oui, c'est que je pense que l'histoire est remplie d'injustices. Hein. Beaucoup d'événements bien majeurs sûr, qu'on hein. célèbre n'ont pas été... Là, il n'a tué personne, il n'a agressé personne, il a fait simplement un geste de roublardise assez époustouflant. Quand même, parce qu'il trompe tout le monde devant des caméras qui le filment.
Il n'y a pas encore 36 caméras autour du terrain.
Donc, je pense que. Et grâce à ces gestes, plus le but qu'il marque après, ce match est resté comme un des matchs les plus importants dans l'histoire du football. Donc, quelque part, les Anglais, et certains l'ont compris, ils doivent presque remercier Maradona parce que grâce à ces buts. Oui.
Je suis plus sûr qu'il soit d'accord.
C'est un argentin qui dit ça.
Mais grâce à de la relecture historique, ça, c'est quand même.
Mais ce but on fait entrer ces matchs dans l'histoire et tous les joueurs qui y participaient avec.
Il y avait un cadre. C'était évidemment 4 ans après la guerre des Malouines, perdue par les Argentins, ces fameuses îles qui sont au large de l'Argentine et qui appartiennent pour l'instant encore à l'Angleterre. Mais il y avait un témoin de ce fait, bien sûr, et c'est Michel Picard, le correspondant de RFI en Tunisie, qu'il a trouvé hier, c'est l'arbitre tunisien Ali Benasser. Écoutez, parce que son témoignage, c'est un document, il est magnifique.
Il y avait deux bras. Je ne savais pas quel bras a frappé le ballon. Le juge de touche bulgare, c'était un arbitre comme moi. Et la FIFA disait que si votre collègue est mieux placé, vous devez prendre en considération son intervention. J'avais de doutes, mais j'ai regardé mon collègue qui était mieux placé que moi et il m'a confirmé le but. Ce Maradona m'a visité chez moi. On a passé un agréable après-midi, lui et sa femme. Il embrassait ma main, il disait le grand Ali, et ainsi de suite, il m'interprète. Alors moi, je lui dis à l'interprète, s'il vous plaît, dites à Maradona que c'est pas l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde, mais c'est Maradona. Et il m'a offert son maillot en écrivant « My Eternal Amigo Ali » avec la signature de Diego. C'était une légende du football, un génie.
C'est magnifique ce reportage, vous ne trouvez pas?
C'est beau. Alors bon, aujourd'hui, on se dirait, je mets de côté le passé, mais ça ressemble à un pacte de corruption quand même, a posteriori. Aujourd'hui, on dénoncerait ça. Hein. Là, ça passe parce que c'est Maradona, que c'est
non,
son ami.
Il dit qu'il a vu, mais qu'il respecte la règle, au contraire.
Il dit qu'il a vu.
Mais il y a aussi un point, c'est on se rend compte que ça a fait évoluer les choses. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de problème pour mettre un arbitre tunisien avec un juge de touche bulgare qui se regardait, qui se comprenait pas et qui pouvait pas beaucoup faire avancer les choses. Aujourd'hui, ils parlent la même langue.
La légende du foot, c'est comme ça, Gilles.
Schumacher,
il a frappé Batiston, il a pas pris de rouge. C'est comme ça le foot. On en parle encore 40 ans après.
La légende noire du foot.
Et on en parlera encore pendant 40 ans. Et c'est comme ça le foot.
Mais justement, petite parenthèse sur les Anglais pour comprendre le fait qu'il y a une petite injustice encore vivante, présente. C'est que si nous, faut qu'on se mette à leur place, les Français, on rabâche année après année l'histoire de Schumacher et de Batiston. Et le jour peut-être où Schumacher disparaîtra, on mettra ça aussi en exergue. Et il faut comprendre le sentiment d'injustice. Après, pour beaucoup, ils sont passés quand même au-dessus.
Oui, bien sûr. Alors la passion pour Diego Maradona n'avait pas d'égal, du moins ailleurs qu'en Argentine, c'est ce qu'on peut croire. Mais il y a quand même un pays miroir de cette Argentine, une terre européenne dont sont originaires d'ailleurs des milliers d'Argentins. C'est l'Italie, bien sûr. Enfin, pas toute l'Italie, mais surtout une ville à laquelle il a offert son talent, sa lumière et où on l'idolâtre encore. C'est évidemment Naples. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Vous aussi, vous avez vu Maradona, évidemment, jouer à Milan, notamment à l'époque où il évoluait dans le championnat italien sous les couleurs napolitaines. Les Napolitains, depuis 24 heures, ils ne dorment pas beaucoup, apparemment.
Ben non, parce que hier soir, quand la nouvelle de sa mort est tombée, des centaines et puis des milliers de Napolitains se sont reversés dans les rues de la ville. Ils se sont donc retrouvés tout d'abord dans le quartier espagnol, un des arrondissements symboles de la ville où il y a dessiné ce fameux fresque mural dédié à Diego. Là, les supporters de tout âge ont allumé des fumigènes et ont tourné des chants pour leur idole. Ensuite, le flux de personnes s'est dirigé vers le stade de San Paolo, on l'appelle encore comme ça, je ne sais pas pour combien de temps, mais de toute façon, pour l'instant, c'est San Paolo, pour y déposer des fleurs, allumer des chandelles, afficher des banderoles à l'honneur de Maradona. Et puis, on a vu des écharpes et des centaines de photos du joueur. Un pèlerinage qui a duré jusqu'à l'aube et qui a recommencé ce matin. Et en regardant les images, on a constaté la présence de beaucoup d'enfants qui montre comme le mythe de Diego Maradona continue à se transmettre de génération en génération.
Matteo, il avait évidemment fait beaucoup pour cette ville qui à l'époque vivait encore dans la fin des années 80, une ville plutôt pauvre et surtout avec cette différence entre le nord et le sud. Le stade de San Paolo, alors c'est un saint, Diego Maradona a dribblé tout le monde, il va même dribbler un saint, il va remplacer le nom de San Paolo de ce stade, c'est admis déjà.
Et vous savez, dans la hiérarchie, Dieu est plus en haut qu'un saint, donc c'est normal qu'il prenne sa place. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est une proposition qui a été énoncée hier par le conseil municipal de la ville de Naples, en accord avec le club du Napoli et son président De Laurentiis. Déjà lundi prochain, on convoquera une commission pour rendre cette proposition officielle. Faut savoir que l'enceinte s'appelle San Paolo depuis l'année 1963. 2003, car auparavant son nom était Stadio del Sole, Stade du Soleil. Et si donc il y aura ce changement en Stadio Diego Armando Maradona, ça sera le nom, ce sera le deuxième stade au monde intitulé au Pibe d'Or. L'autre, c'est celui de l'équipe de l'Argentino Junior, où le joueur a fait ses débuts en 1976 et qui, depuis 2004, se nomme Estadio Diego Armando Maradona. J'ai fait, je l'ai dit bien.
Ah, très bien, parfait.
Alejandro, vous mettez une bonne note. Pour terminer, Matteo, quelques hommages peut-être à citer, des hommages d'Italiens qui ont marqué dans un sens ou l'autre.
Ouais, il y en a eu vraiment plein. Alors je vous dis, celui qui m'a touché, c'est Arrigo Sacchi, par exemple. Il a écrit c'était le Picasso du football qui nous quitte. C'est le Picasso du football qui nous quitte. Puis il y a eu Ciro Ferrara, qui était son plus grand ami à Naples, qui a déclaré c'était un dieu, mais personne n'a été plus humain que lui. Puis Paolo Maldini, Diego, tu seras toujours un héros pour moi. Et puis ensuite Corrado Ferlaino, qui hier soir au micro de la RAI, il pleurait, il avait vraiment beaucoup de larmes qui coulaient de son visage, a dit une chose qui m'a fait sourire. Il a dit: Diego, c'est un Napolitain né par hasard en Argentine. J'ai adoré.
Ouais, bah écoutez, bel hommage. Ici, on a aussi beaucoup parlé de ce Diego Napolitain. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. On va maintenant se diriger vers l'Afrique. L'Afrique où l'émotion est aussi palpable, notamment parce qu'en 1981, l'attaquant déjà génial de Boca Juniors avait participé à un tournoi en Côte d'Ivoire. On va d'abord commencer par écouter les témoignages de nos auditeurs. Alors malheureusement, quelques-uns seulement des dizaines de témoignages que l'on reçoit ici et écoutés par David Finzel.
Bonjour RFI, bonjour Annie Gasnier. Moi c'est Oud Mengbeou depuis le Bénin. Le souvenir que je garde de Maradona, c'est le Paris napolitain. Il a pris le risque d'aller au Napoli. Il a mis le club sur l'échiquier mondial. Personne n'aurait fait ce pari. Et lui, la légende qu'il était, il a fait ce pari et il a tout gagné.
Bonjour Radio Foot. J'ai pas vécu la période où dire que Maradona joue au football. Mais j'ai juste vu ses extraits, c'était vraiment époustouflant. Surtout son match contre l'Angleterre en Coupe du Monde. Ah, ce match-là m'a laissé vraiment un coup de football. Ah, ce gars-là, qui se repose un peu vraiment.
Calvin Chungu, Kinshasa, 26 juin 2018. L'Argentine marque, Maradona exulte. Un bras d'honneur pour les Nigériens, un bras d'honneur pour l'Afrique. Quelques minutes plus tard, le Rémalais. Ça résume un peu Maradona, un génie avec ses folies. Mais nous, Africains, nous t'avons pardonné. Tu restes à jamais dans nos cœurs. Adi, Diego, Maradona.
Salut Radio Foot, c'est Lionel Ngolo depuis Kinshasa en RDC. Le souvenir que je garde de Maradona, c'est son passage à Naples de 1990 à 1984. Après ses merveilles, il a porté à lui cette équipe de Naples. Et pour lui, Naples en retour arrêterait le numéro 10. Ça m'a beaucoup touché qu'il repose en paix.
Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International, c'est Branson Kouyaté depuis Conakry. La disparition de Diego Armando Maradona est une grande tristesse pour l'humanité tout entière. Condoléances à sa famille et au monde du sport. La main de Dieu restera un souvenir intarissable pour nous et pour l'humanité tout entière. Ciao, El Pibe de Oro.
Et c'est ainsi que Dieu rejoignit son royaume, en laissant derrière lui ses enfants dans une tristesse inimaginable. El Pibe de Oro s'en est allé. Adieu El Dios. Une légende ne meurt jamais, qui restera à jamais dans nos cœurs. Repose en paix l'artiste.
Salut Radio Football, bon, c'est Nasser Frias depuis le Mur Togo. Seule image que moi j'ai de Maradona, c'est quand il était à Napoli. Le duel Maradona Platini. Et grâce à ça, je suis devenu fan de Napoli. C'est un grand homme avec ses côtés un peu sobre, ça. Che Guevara et autres, vraiment, il m'a beaucoup marqué. Ouais.
Moi, c'est Patrick Lanignomo, camerounais, depuis Paris. Je suis vraiment attristé pour ce qui est arrivé hier. J'ai surnommé mon fils Diego en hommage à Maradona. Je me souviens avoir pleuré longuement quand l'Argentine a perdu face au Cameroun, qui était mon pays. Tellement j'aimais cette idole. Bonsoir à vous.
Mamadou Lamine Diatta, Dakar, Sénégal. Diego Maradona est parti. Alors, le souvenir qui nous revient, c'est ce garçon qui a éclaboussé de son talent la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Il avait gagné à lui seul le trophée mondial avec un talent fou. Le monde a su vibrer avec Diego Armando Maradona. et l'image qui nous revient, c'est quand il soulevait le trophée mondial, donc devant João Avalanche, alors président de la FIFA. Adios, El Pibe de Oro.
Bonjour, je m'appelle Samuel Zaklan depuis Porte-Nouveau au Bénin. Le souvenir que je garde de Maradona est cette fameuse déclaration. Je cite, je le jure sur la tête de tout ce que j'aime. Je suis allé au duel avec Shilton et j'ai frappé le ballon avec ma tête. Ce qui se passe, c'est que Shilton est sorti le point en avant. Mais je n'ai aucun doute que j'ai frappé le ballon avec la tête. J'ai même un bleu sur le front qui peut en attester. Ce geste, je l'ai fait avec la tête de Maradona et la main de Dieu. Repose en paix, légende.
El Pibe de Oro. El Pibe de Oro. Salut, c'est Jean Kriba. Depuis Saint-Louis du Sénégal, Maradona, c'est le football. Quand on aime le football, on aime forcément Maradona.
Gilles, vous qui allez souvent en Afrique, j'imagine que vous mesuriez l'impact que ça peut avoir aussi sur le continent africain.
Oui, c'est une icône. C'était le représentant d'un espoir. Et ce que je trouve formidable dans Maradona, c'est que derrière le côté artiste, il y avait le côté homme avec ses vulnérabilités et ses failles. Et on peut tous se reconnaître en quelqu'un qui est un génie absolu, mais qui est tellement vulnérable, qui a tellement de failles, et puis qui a assumé toutes ses failles. Oui, je me suis drogué. Oui, j'ai trompé ma femme. Oui, je me suis dopé, etc. Mais il y a eu des complots contre moi. Et il y a le côté rédemption. Et les Africains, vous voyez, ils parlent tous de ce côté, mais on t'a pardonné. Il y a ce côté rédemption, ce côté deuxième chance, ce côté t'étais aussi merveilleux parce que t'étais qu'un homme finalement, et un homme il a des failles.
Le côté rédemption peut-être, c'est, et Dominique, c'est vrai que c'est quand on le voit à la tête de la sélection argentine dans la seule Coupe du Monde qu'il y a eu sur le continent africain.
Oui, 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 il a été aussi sélectionneur à ce moment-là. Oui, c'est pas forcément la plus belle partie de sa carrière. On préfère tous le joueur à l'entraîneur.
On ça faisait presque plaisir de le voir.
J'ai entendu Paul Le Guen lui rendre hommage sur les antennes du service public. Il parlait d'une rencontre. Lui était sélectionneur d'Oman et lui des Émiratis, d'un club émirati. Donc à un moment donné, on a perdu un peu le fil de sa carrière d'entraîneur, quoi. Mais pour revenir sur les failles dont parlait Gilles et dont vous parliez, pour moi, je connais pas dans l'histoire des génies du rock, du cinéma, de la pop culture, je connais pas de génie qui n'ait pas de failles. Mm-hmm. Pour moi, c'est
ça va ensemble.
Bah oui, les génies aseptisés sont pas des génies, quoi.
Alors, le génie de Maradona n'avait pas de frontières. En octobre 1981, il participait avec l'équipe de Boca Juniors à un tournoi à Abidjan. Alors Emmanuel Coffi nous a transmis ces images de la RTI commentées par, dit-il, Feu Boubacar Kanté et Eugène Kakou.
C'est Scurrido qui lance Diego, qui cherche à faire le pont et qui marque. Voilà. Diego marque. C'est un exploit individuel et jeune. Notre dangereux pour le stade d'Abidjan. Voici le développement sur le côté gauche, dans les pieds.
Il avait 20 ans alors, Diego Maradona. Un Ivoirien l'a vu et admiré ce joueur à l'époque, le génie en puissance. Il s'agit de Bleu Charlemagne, lui-même footballeur averti et président aujourd'hui de la Fédération du foot Maracana. Bonjour Bleu Charlemagne.
Bonjour Annie.
Bleu Charlemagne, racontez-nous ce séjour de Maradona en octobre 1981. Vous étiez dans le stade, un stade bondé?
Oui, bien entendu. Il faut dire déjà, Annie, que tout le monde l'attendait, puisque à l'époque, Maître Mondon Kona Julien, président donc en exercice du stade d'Abidjan, un club qui venait donc, qui était le seul d'ailleurs au niveau de la Côte d'Ivoire à avoir pris un titre africain en 66, donc un très grand club au niveau de notre pays, qui a donc eu le génie d'inviter Boca Junior donc, à un tournoi amical à Abidjan. Ils sont arrivés en avion donc, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le 4 octobre 81, pour un séjour qui allait les retenir jusqu'au 9. Et donc, le match en question, contre le stade, le tournoi a pris donc 3 jours, du 6 au 8, et nous étions au stade. Moi, je n'étais pas à l'aéroport, mais on a été au stade Houphouët-Boigny. Grâce à nos aînés, nous avons pu regarder, et ce génie naissant n'a laissé personne indifférent. C'est vrai que on n'avait pas encore le Maradona que le monde entier allait connaître, mais il était comme je l'ai dit, naissant, il débutait, et ça a été merveilleux. Il nous a vraiment appris de très beaux gestes que nous sommes allés, pourquoi pas, reproduire dans nos différents clubs où on jouait au lycée pendant nos compétitions interscolaires. Et franchement, chacun de nous voulait porter son nom. Et donc, on a eu des Diego comme ça partout en Côte d'Ivoire, partout avec le numéro 10. Et sincèrement, c'est une grande perte. Oui, bien sûr.
Ouais, c'est un beau témoignage. Vous m'aviez dit aussi que quand il était arrivé à l'aéroport, il commençait déjà pratiquement sur la passerelle de l'avion à dribbler.
On vient de le perdre, dommage, j'allais dire Annie, mais malgré ses frasques, en tout cas nous autres, on est restés fidèles à ses images et au service qu'il a rendu au football mondial, parce que nous avons appris plus tard que beaucoup de règles de jeu ont dû donc évoluer grâce à son intrépide insistance au niveau de la FIFA, et que même il s'apprêtait à former un syndicat des footballeurs professionnels à l'échelle mondiale, et qu'il est même donc l'initiateur, sinon un des instigateurs du FIP Pro, de l'association des footballeurs professionnels à l'échelle mondiale. Ouais. Et ça, c'est très, 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 très important.
Merci beaucoup, Bleu Charlemagne, d'avoir été en direct avec nous depuis Abidjan. Et pardon pour la communication qui n'était pas formidable. C'est vraiment le joueur... qui passait un passe-muraille, Alejandro.
Le joueur monde.
Avec son génie.
Oui, et c'est vrai que pour les Argentins, quand on s'est déplacé dans le monde à l'époque, dire Argentin, tout de suite, c'était les sourires, parce qu'on pensait tout de suite à Maradona, et vous étiez en quelque sorte une sorte d'annexe de Maradona, et ça permettait d'avoir un accueil beaucoup plus bienveillant qu'on aurait eu autrement.
Même au Brésil.
Bon, je pense que même au Brésil. D'ailleurs, il y a eu un très beau message hier de Pelé, le roi Pelé, qui a fêté ses 80 ans une semaine avant Diego Armando Maradona, et qui disait « J'espère qu'on se retrouvera pour jouer ensemble un jour ».
Après, il n'y avait pas une estime dingue réciproque, si on est honnête.
Alors, pour être honnête, entre les Brésiliens et les Argentins, c'est toujours très difficile. Alors après, c'est pour ça qu'entre Avalanche et Maradona, il y avait aussi cela. C'est pour ça que ça existe toujours, même aujourd'hui, et qu'un match entre l'Argentine et le Brésil, le plus amical soit-il, avec des équipes B, C ou D, ça sera jamais un match banal.
Mais Maradona, ce qu'il reprochait à Pelé n'était pas d'être brésilien, il lui reprochait plutôt de ne pas utiliser sa réputation notoriété. Et son image, son notoriété, pour faire avancer les droits des footballeurs et en général pour le mettre au service de la bonne cause. Il s'est moqué de lui en disant Monsieur Mastercard, parce qu'il était toujours avec sa petite casquette Mastercard, et donc il était toujours gentil avec tout le monde parce qu'il fallait communiquer utilement. Donc je pense que au-delà de tout le respect qu'il avait pour le footballeur Pelé, il y avait cette différence d'approche qui faisait que Maradona n'était pas forcément très content de la manière dont Pelé avait géré son après-carrière.
C'était l'homme anti-système contre l'homme du système. Mm-hmm. Pelé, c'est l'homme qui a dit oui à tout. C'est ce qu'on lui reproche globalement.
Des années 70,
globalement, il s'est rebellé contre rien. Mm-hmm. Et alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que il a réussi. Maradona aimait bien l'argent aussi. Et il faisait monnayer ses itabous, etc. Et Pelé avait réussi quand même à le mettre en homme sandwich. Pelé, qui est l'homme sandwich total, comme vous le disiez, c'est l'homme marque. Il avait réussi à amener Maradona à des opérations de promotion pour les montres. Et quand on voit les images à chaque fois, Pelé est très à l'aise et Maradona a un tout petit côté, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas moi, quoi. J'empoche l'argent, mais c'est vraiment pas moi. Mal à l'aise.
Alors, Maradona était aussi venu, et ça c'est intéressant, au jubilé de Michel Platini, parce que il faut se souvenir, dans les années 80, on avait on était de l'école Diego Maradona ou on était de l'école Michel Platini. Et le 24 mai 1988, sur une pelouse d'un stade Marcel Picot, en Lorraine donc, à Nancy.
Je l'ai vu jubilé.
Vous y étiez.
J'y étais pas, mais je l'ai vu à la télé.
Ah oui, on a tous vu les images. Et alors, il y avait Michel Platini, évidemment, parce que c'était son jubilé. Même Pelé était venu ce jour-là. Et il y avait Maradona, les deux étaient en tenue de sport. Mais la petite histoire, eh bien, il l'a confiée hier à nos confrères de RTL. Écoutons Michel Platini sur un des détails de ce jubilé.
À l'occasion de mon jubilé en 1987, Diego Maradona, il est venu. Il m'a dit, écoute Michel, j'ai un peu mal derrière la cuisse, mais ce que je voudrais, c'est éventuellement aller devant le public et puis jongler avec une orange. Il dit, écoute Diego, tu me casses pas les pieds, tu viens, tu joues 20 minutes, 10 minutes, tu te sors blessé, le public t'ovationnera et sera content. Ah bon, bah très bien. Et à la mi-temps, il voulait plus jamais sortir, il voulait continuer en deuxième mi-temps. Voilà.
C'est du pur Maradona, non?
Ah, ouais, bon, ouais. Leur rivalité a été géniale, parce que c'était la rivalité entre la Juventus de Turin, le nord de l'Italie et Naples, le sud, les pauvres, avec objectivement une meilleure équipe à Turin, mais c'est quand même Naples qui a été championne d'Italie. On peut dire que ça, c'est un peu insultant pour ses coéquipiers, mais Maradona a été champion d'Italie un peu à lui tout seul quand même.
C'est la grandeur de Maradona.
Il n'y a pas une grande équipe autour de lui, on peut le dire, à Naples. Mm-hmm.
C'est la grandeur de Maradona, quand on parle toujours de savoir qui est le plus grand joueur, etc. Maradona, il a fait gagner deux équipes, Naples et l'Argentine, qui n'étaient pas destinées à gagner, qui étaient même plutôt des équipes perdantes. Et c'est là, moi, je trouve le tour de force exceptionnel de Maradona, qui portait à la fois avec ses idées, son caractère, mais aussi tout un groupe derrière lui. Et c'était un formidable guerrier.
Dans un football où il y avait moins de protection pour les attaquants, pour les artistes, qu'aujourd'hui, où les tacles étaient beaucoup plus violents qu'aujourd'hui, on parle du documentaire, c'est un documentaire qui est consacré quasiment qu'aux années napolitaines, mais il y a aussi un passage sur Barcelone et Séville. On voit des tacles,
détruit la cheville.
Mais c'est d'une violence. Aujourd'hui, le gars prendrait deux ans de suspension. Et il a évolué dans ce football-là.
Gilles.
Juste pour revenir sur Platini, Platini lui avait noblement rendu l'appareil en allant lui aussi à son jubilé après, entre grands joueurs. Il avait tenu à y aller. Ils n'étaient pas, c'était des rivaux, ils se respectaient, c'était pas les meilleurs amis du monde.
C'était cordial, quoi.
Voilà, sans plus. Mm-hmm. Mais Platini avait tenu à aller au jubilé.
Oui, à lui rendre l'appareil. Ouais. Et il y avait aussi Eric Cantona, je me souviens. C'était en 2001.
Absolument.
Le 12 novembre 2001, à Buenos Aires, à la Bombonera.
Platini, il est un des plus grands joueurs de l'histoire du foot et il tombe dans la période où il y a le plus grand joueur de l'histoire du foot. Alors forcément, c'est un peu ballot.
On connaît ça aujourd'hui encore, finalement. On croit que Cristiano et Messi, c'est autre chose, mais non. Écoutons aussi Alain Giresse qui était ce matin sur l'antenne de RFI. C'était amusant à Alejandro Valente. Quand il parlait de l'importance de la taille, c'était une question d'Arnaud Pontus. Ils avaient, alors on a cherché tout à l'heure, 1m62 pour Alain Giresse, 1m65 pour Diego Maradona.
Mais
et 1m.
Voilà.
Et c'est 1m70 pour Lionel Messi. Donc ils sont à peu près tous dans la même gamme. Écoutons Alain Giresse évoquer la taille et l'adresse, l'habileté que cela donnait à Diego Maradona.
Quand on est de petite taille, comme Messi peut l'être, etc. Bon, si vous n'avez pas des arguments sur le plan technique, sur le plan athlétique, avoir de la vivacité, de la capacité sur des appuis de contre-pied, bien sûr que vous allez être en difficulté. Et en plus, avec une technique du pied qui, pour lui, pour son pied gauche, je ne sais pas si vous avez vu les images, on a vu c'est évidemment des images de son échauffement. Mais le ballon, il peut rester des heures entières sans toucher le sol, quoi. Oui, il faut avoir quelque chose que les autres n'ont pas pour pouvoir, dans le monde du football, pour avoir sa place.
Gilles, il avait quelque chose que les autres n'ont pas.
Il avait cette technique incroyable, ce don du ciel, qu'il n'avait pas énormément travaillé parce que le don était là. Mais il avait aussi effectivement une vivacité des fibres musculaires telles que sur 2-3 appuis, il créait le contre-pied, il était insaisissable. Il avait une musculature. Alors, il a beaucoup perdu. Il disait à Naples, jusqu'au mercredi, jeudi, je fais la fête et puis après j'ai 3 jours pour me remettre pour le match. Il n'a pas énormément travaillé athlétiquement, mais il avait son préparateur physique quand même. Et au niveau de la prise d'appui, c'est un des joueurs qui crée le décalage le plus rapidement possible.
Et j'ajouterais qu'il avait aussi un énorme courage parce qu'il allait toujours au charbon. C'est pas les joueurs qui s'est caché quand les choses étaient tendues, etc. Il allait toujours au charbon. Il n'hésitait pas à prendre des coups, à les rendre s'il le fallait. Et ça aussi, c'est la marque d'un grand joueur.
Il y avait Gary Lineker qui avait raconté une anecdote sur un match, c'était une sélection d'Angleterre contre le reste du monde, et Maradona avait été invité, et Maradona avait commencé à jongler assis sur un siège du vestiaire, et puis une fois qu'il était parti, tout le monde hallucinait, il avait jonglé, je sais pas, pendant 10 minutes avec le ballon, comme ça, avec un pied, après c'était parti s'échauffer, il était au rond central, et il jonglait, et il balançait le ballon le plus haut possible, mais à 30, 40, 50 mètres, les mecs hallucinaient, ils réceptionnaient le ballon. Il bougeait pas, hein. Il ne faisait pas de marche autour de lui. Il ne bougeait pas. Il a fait ça 13 fois de suite. Et Gary Lineker a halluciné. À l'époque, il jouait à Barcelone. Après le match, il est rentré à Barcelone en discutant avec ses coéquipiers. Ils ont essayé de faire la même chose à l'entraînement. Il me dit, on n'a pas été capable de faire plus de 3 fois. C'était ça le talent de Maradona. Il était capable de faire des choses avec un ballon que très peu ont été capables.
Des fois, je me rappelle aux États-Unis à la Coupe du Monde, à l'entraînement, avec des balles de tennis, il régalait tout le monde en faisant des numéros incroyables.
Alors justement, il y a Michel Platini avait eu aussi cette fameuse phrase. On évoquait Zidane vraisemblablement à ce moment-là, et il répond en disant, mais ce que fait Zidane, Maradona le fait avec une orange.
Ça, c'est pas gentil.
C'est pas tellement pour valoriser Maradona, voilà. Je crois que c'est plutôt pour minimiser Zinedine Zidane.
Et que lui reste l'éternel numéro 10. Mais en tout cas, Dominique, c'est vrai, vous avez pris la parole. Quel serait pour vous peut-être un descendant, un héritier de Diego Maradona? Où est-ce qu'il n'y en aura plus peut-être?
Je sais qu'ici ou ailleurs, on a souvent le débat, est-ce que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps?
Numéro 10. Hein.
Après, moi, je trouve que c'est une question, déjà, il n'y a pas de réponse, et ensuite, elle correspond à votre sensibilité personnelle, c'est votre dose d'émotion que vous avez reçue dans votre vie. Moi, j'ai reçu une décharge avec Maradona qu'aucun autre ne m'a donné. Donc moi, je vous dirais Maradona jusqu'à sur mon lit de mort à Nice, si vous êtes là. Mais si vous me dites Lionel Messi, je vous crois. Je vous entends, en tout cas.
T'exagères, Dominique. C'est évident que Messi, il est gaucher. Il est argentin. Petit comme lui. Moi, je pense que c'est un des 10 ou 11 fils cachés de Maradona. Franchement, c'est clairement un des enfants de Maradona. Il a tout ce qu'a Maradona. Les mêmes qualités.
Il manque le charisme.
Il lui manque le charisme.
Il vit dans une autre époque aussi, cette Coupe
du Monde avec l'Argentine.
Il vit dans une autre époque où les footballeurs aujourd'hui sont entourés par des hommes en costume qui calculent tout, qui monnayent tout et donc qui ne laissent pas une liberté de parole.
Même si lui se prête pas trop à ça, justement. Il est quand même moins agaçant que Cristiano Ronaldo. C'est vrai. Star System.
Mais personne aujourd'hui n'a la liberté des paroles qu'avait un Maradona.
Gilles.
Surtout, ils sont normés parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, vous imaginez aujourd'hui des frasques telles que celles de Maradona, ça exploserait alors que ça restait quand même un peu caché, un peu admis, parce que pas vraiment établi. Donc, on se demandait, mais aujourd'hui, le rapport qu'il avait à la drogue, ça éclaterait très, très vite. Il y aurait plus de protection. Moi, je pense quand même, je suis pas d'accord avec Dominique, je pense quand même que l'héritier naturel direct, c'est Messi. Alors, bien sûr, il lui manque la Coupe du Monde qu'il n'aura jamais. Donc, dans l'esprit des Argentins et de Dominique, il sera toujours inférieur à Maradona. Je comprends.
Et vous aussi.
Mais c'est quand même l'héritier. C'est quand même incroyable qu'il y ait cette filiation entre les deux.
J'attends qu'il se fasse un tatouage sur le mollet de Fidel Castro. Et après, on en reparlera, Gilles.
Che Guevara.
Pour finir, j'aimerais vous faire écouter un document sonore, Made in RFI. C'est la prière qu'ont les Napolitains à l'égard de Diego Maradona. Et David Finzel avait fait cette prière à l'époque quand nous étions allés à Marseille à une grande exposition qui s'appelait 100% foot.
Notre Maradona, toi qui descends sur le terrain, nous avons sanctifié ton nom. Naples et ton royaume, que ta volonté soit faite, autant dans le stade San Paolo qu'en déplacement. Donne-nous toujours les victoires sur lesquelles nous parions. Ne nous berce pas d'illusions, mais conduis-nous au trophée. Amen.
Je suis pas croyant, mais là, j'y crois.
Vous allez réciter ça tous les soirs désormais.
Cette religion-là, je veux bien la
pratiquer. Messieurs, un petit mot pour fermer l'émission? Un mot.
Un mot, pour moi, Maradona, c'était le football, tout simplement.
Éternel.
Je dirais à bientôt, Diego. Un jour, on se retrouvera.
Gilles.
Magique, la magie absolue.
La magie absolue. Éternel, ce Diego Armando Maradona. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à David Finzel et à Pierre Guérin. Merci à Laurent Salerno. On a tous préparé avec beaucoup de cœur et beaucoup d'émission, avec beaucoup de cœur et beaucoup de volonté cette émission. Et on vous dit à demain.